Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on discute actualité française et dépôt du budget au Québec. Bonjour à tous, deux segments dans cette émission. Le premier avec Christian Rioux, correspondant français du... Bonjour à tous, deux segments dans cette émission. Le premier avec Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, pour parler de l'actualité française. Et ensuite avec Guillaume Rousseau et Philippe Léger pour revenir sur le dépôt du budget du Québec cette semaine. Notre premier invité de ce vendredi 15 mars, c'est Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
Bonjour.
Avec toi, on va revenir, comme d'habitude, un peu sur l'actualité française. Il y en a beaucoup en ce moment parce que c'est quand même une actualité avec certains éléments qui peuvent intéresser au Québec. On en reviendra en deuxième partie d'entrevue sur les débats sur la fin de vie. Mais commençons tout d'abord avec ce qui intéresse politiquement principalement le pays, c'est le débat sur la guerre en Ukraine et les élections européennes qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'éléments qui sont interconnectés entre ces deux sujets. Commençons avec le débat sur la guerre en Ukraine qui a eu lieu ce début de semaine à l'Assemblée nationale. C'était un débat qui a permis de montrer vraiment les grands positionnements tels que la politique française est actée en ce moment.
Oui, je pense qu'on a pu voir ça. D'ailleurs, c'est un débat qui n'est pas sans lien avec les élections européennes. Ouais. Hein. Vous savez que Emmanuel Macron a soumis à l'Assemblée un traité qui était déjà ratifié, puisque ça relève de sa juridiction à lui et que le vote de l'Assemblée n'était que consultatif. Donc, il n'était pas obligé de soumettre ce traité à l'approbation de l'Assemblée nationale. Et on peut penser, enfin, la plupart des analystes le pensent, qu'il l'a fait parce que ce débat l'intéresse. Justement dans le cadre de la campagne des élections européennes. Donc évidemment ça a donné un débat très polarisé où ouais. on a vu trois positions en fait s'exprimer, celle d'Emmanuel Macron qui est la position qui dit que l'Europe est dans un combat, un grand combat pour la démocratie contre un régime qu'on pourrait presque qualifier de totalitaire et même qu'on compare à Hitler et que se joue là la démocratie et l'avenir de l'Europe. Face à lui, on a vu une Marine Le Pen qui, elle, s'est abstenue dans le débat et qui s'est abstenue tout en affirmant son soutien pour le combat des Ukrainiens, mais en dénonçant une instrumentalisation de cette guerre par Emmanuel Macron et notamment le fait que donc dénonçant cette instrumentalisation par Emmanuel Macron. Et puis troisième position, celle des filles de la France insoumise, qui eux ont voté contre parce que évidemment ils sont contre l'atlantisme et évidemment l'OTAN. Donc on a vu vraiment trois positions s'exprimer très clairement. Marine Le Pen s'y est opposée aussi parce que la résolution incluait l'idée de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Évidemment une opposition.
Et on a beaucoup aussi de paroles dans ce moment de la plupart des responsables, surtout liés à Emmanuel Macron, qui ouvre la porte à l'Ukraine dans l'OTAN aussi en plus de l'Union européenne.
Oui, absolument.
Mais on a certains relents un peu dans ce genre de débat. Toi qui dois connaître l'histoire française, un peu des débats qu'on avait eu aussi dans l'entre-deux-guerres. Par exemple, on a eu Gabriel Attal et des proches de Gabriel Attal, le premier ministre français actuel, qui traitaient les gens de LFI comme Manuel Bompard, le coordonnateur de la France insoumise, un peu la personnalité politique élue qui remplace Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée en stature importante avec Mathilde Panot, qui est la porte-parole qui est la chef du groupe, en traitant ces gens un peu de daladier. Le daladier, c'était le premier ministre qui avait négocié avec Hitler l'abandon de la Tchécoslovaquie. Lors du congrès de Munich, et on sait très bien quelques mois après qu'est-ce qui s'est passé, mais on a un peu ces accusations qui se passent en ce moment. Le débat est extrêmement polarisé. À côté, on a un groupe Renaissance, donc le groupe de Emmanuel Macron, qui aussi accuse de l'autre côté le Rassemblement National d'être la nouvelle couronne antenne de Moscou en France, telle qu'on traitait les communistes avant à l'époque de l'URSS, de la guerre froide. Donc on a un peu on a l'impression de revivre un passé qui perpétuellement se réimpose dans l'actualité récente.
Oui, c'est ça. Il y a des matins où on se lève et on a l'impression de s'être trompé de
siècle.
De siècle, oui, voilà. On se dit de quoi s'agit-il, Daladier, Chamberlain, etc., etc. Mais effectivement, c'est Véronique Hayé qui a traité énormément Marine Le Pen de Daladier, en faisant d'ailleurs une erreur historique, parce que Daladier avait regretté sa signature à Munich et était convaincu convaincu qu'on le dénoncerait en revenant en France, et en revenant en France, il s'est aperçu qu'au contraire, on l'applaudissait, et Daladier n'a pas démérité de la République, puisqu'après, il a essayé de se sauver sur le Matignon pour former un gouvernement en exil. Il a été traduit dans les tribunaux par Pétain, et il s'est retrouvé en exil en Allemagne. Donc ouais. Voilà, donc les historiens se sont escapés en entendant Valérie Ayer traiter Marine Le Pen de Daladier. Mais ce que ça montre, c'est que visiblement, la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette campagne, c'est effectivement de peindre l'opposition, de peindre Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui sont à 31% à peu près dans les sondages.
Je vois le sondage devant, 31% pour Bardella, 18% pour Renaissance, 11,5% pour le PS, c'est le retour du PS.
Oui, ce qui est beaucoup. Et donc, de peindre ces gens en ennemis de la République, en fachos pratiquement, et parfois aussi, évidemment, en cinquième colonne du KGB ou de la...
Mais néanmoins, il y a des liens. Quand on sait le financement, le prêt que le Rassemblement national a pris auprès de Moscou parce que les banques refusaient de financer. Il y a certains, le refus de condamner l'invasion de la Crimée, ce genre de choses. Il y a quand même des liens ou des prises de parole qui sont suspectes.
Oui, ben il y a eu effectivement des liens, on pourrait dire peut-être une certaine admiration du Rassemblement national pour la Russie de Vladimir Poutine. Mais vous savez que dès que Jordan Bardella s'est lancé dans la campagne, il a exigé de son parti le remboursement complet du prêt, effectivement que les banques françaises lui refusaient. Mm. Mais on voit bien que la stratégie de Macron, c'est effectivement de peindre comme ça son adversaire, son principal adversaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que ça ne fera pas descendre le pourcentage de vote de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Mais qu'est-ce que vise Emmanuel Macron?
L'électorat de gauche.
Exactement. Le principal ennemi qui n'est pas nommé d'Emmanuel Macron, c'est Raphaël Guzman. Vous l'avez dit, 11,5%. Si Raphaël Guzman arrive à 15%, vous imaginez ce qui va se passer. Il va être à égalité à peu près avec Emmanuel Macron. Et ça serait une défaite catastrophique pour Emmanuel Macron.
Et pour son camp en vue des présidentielles.
Voilà. Donc, en peignant Marine Le Pen et Jordan Bardella en facho, en cinquième colonne de Poutine en France, il essaie en fait d'être le candidat unique de l'opposition, le candidat unique de l'Europe, et donc d'essayer d'effacer les Glucksmann, les écologistes, les Verts, parce que vous savez qu'une élection, les élections européennes, traditionnellement, sont des élections où les partis plus petits font de très bons scores. Ouais. C'était vrai pour le Rassemblement national à l'époque, mais aujourd'hui, évidemment, ils dominent le vote, mais ça peut donc être vrai pour les socialistes. Ça a déjà été vrai pour les écologistes, où ils ont... qui ont déjà fait de très, très bons scores aux élections européennes. Donc, le vote aux européennes, le vote se divise. C'est pas du tout un vote de deuxième tour, comme aux présidentielles françaises. C'est vraiment un vote où on se divise. On vote pour sa famille politique, on vote pour ses convictions politiques, et ça peut faire extrêmement mal à Emmanuel Macron. Même certains de ses électeurs peuvent rentrer à la maison, rentrer au PS, ou même rentrer chez LR, vous voyez. Donc, c'est un vote extrêmement dangereux pour lui, et c'est pour ça qu'il a décidé véritablement de polariser le jeu. C'en est presque rigolo ou parfois ridicule. Je vous ai cité la comparaison avec Daladier qui ne tenait absolument pas debout. Parfois, en tout cas, on peut facilement trouver que c'est excessif.
Allons-y un peu sur Raphaël Guzman, parce que probablement les auditeurs québécois vont commencer à entendre de plus en plus parler de cette personnalité politique. C'est un essayiste, c'est un philosophe, c'est un intellectuel au départ qui est marié avec Léa Salamé, qui est une des grandes animatrices de talk show et d'information en France. Elle a une émission qui a remplacé un peu le Tout le monde en parle, l'ancien Tout le monde en parle de la 2 et l'émission de Ruquier ensuite le samedi soir.
Absolument.
C'est quelqu'un qui est présent dans les milieux médiatiques et politiques depuis très longtemps en France, mais là il tente un peu de réveiller ce PS plutôt européiste, tel le PS à l'ancienne, pas le PS plutôt des années Hollande, des années éléphant, mais un peu revigoré, rajeuni. Et on voit dans les sondages qu'il a siphonné beaucoup de gens qui étaient partis à la France Insoumise et à la NUPES durant les dernières élections présidentielles et législatives, qui semblent vouloir revenir au PS maintenant que lui en est un peu le cheval de bataille. Et on voit une France Insoumise qui est un peu, quand on voit les sondages, 7% dans le sondage de lundi des élections européennes de IFOP, si je me souviens bien, le sondeur. 7%, c'est une chute extrême de la France Insoumise, une France Insoumise qui, avec ses prises de position actuelles, principalement avec la guerre Israël-Hamas, est plus qu'une caricature d'un parti politique.
Oui, attention à ne pas trop
les sous-estimer, les données pour mort.
La France insoumise, parce que vous savez, en deux présidentielles, en général, la France insoumise fait toujours d'assez ouais. mauvais scores. Et tout à coup, six mois avant les présidentielles, redevient une véritable force politique. Et ce que fait en ce moment Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi de tenter de conquérir l'électorat arabo-musulman en France, ouais. celui des banlieues. Et de ce côté-là, je ne suis pas sûr qu'il sera perdant, en tout cas au bout de la ligne, même ouais. si en ce moment on peut douter de ça. Mais effectivement, Raphaël Glucksmann, c'est le je pourrais presque dire un socialiste un peu à l'ancienne qui même, je pense, admet des erreurs, en tout cas du Parti socialiste, là, ce qui n'est pas courant dans le monde politique français. Ouais. Même dans le PS aujourd'hui, certains sont prêts à admettre d'avoir négligé la question d'immigration, voyez-vous. Ouais. Donc je pense que pour les élections européennes, ça risque de le servir, ça risque de ramener effectivement un certain nombre de ces électeurs et même des militants, hein, qui, comme vous le disiez, qui sont à la France insoumise. Est-ce que sur le long terme, quelque part, la place n'est pas prise? C'est un peu ce qu'on peut voir dans le contexte, en tout cas, des élections françaises. Aujourd'hui, il y a une mainmise et une domination du Rassemblement national qui est énorme. Alors, je pense que Raphaël Glucksmann peut aller chercher des voix chez Mélenchon, mais je crois qu'il n'ira pas en chercher. Ce n'est pas, en tout cas, le candidat qui est en mesure d'aller récupérer le vieil électorat socialiste ouais. qui, depuis longtemps, est passé chez Marine Le Pen, et je pense que celui-là ne reviendra pas. Ouais. Donc, vous voyez, on est dans un débat entre LFI et les socialistes, un peu plus de LFI, un peu plus de socialistes, mais on est vraiment dans ce genre de débat, et j'ai l'impression que ça n'aura pas d'effet sur le score du Rassemblement national, qui est dans une espèce de hausse ouais. constante et presque assurée. Là.
Il nous reste 2-3 minutes, Christian. Oui. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Peut-être aussi un petit topo. On a le débat sur la fin de vie qui va commencer en France. Ça a déjà été bien avancé ici au Québec. Même on est un peu sur voir comment étendre ces possibilités d'offrir la fin de vie et mettre un peu en accord les vues telles que la Cour suprême l'avait rendue avec le droit au Québec, le droit au Canada. On sait très bien où ça en est. Mais en France, on oui. ouvre enfin ce débat. Et ça aussi, ça va être très polarisant.
Oui, je pense que ça risque d'être polarisant. Ceci dit, les sondages nous disent qu'à peu près 86% des Français sont en faveur d'une loi sur ce sujet. Hein. Donc, à mesure qu'on va rentrer dans le débat, évidemment, les polarisations vont se faire. Ouais. Emmanuel Macron semble avoir choisi ce que j'appellerais, moi, un modèle hybride, hein, un modèle qui ressemble un peu à ce qui se pratique dans certains États américains comme l'Oregon, où on parle carrément d'aide au suicide, c'est-à-dire on peut prescrire une pilule de la mort, là, une kill pill, et le patient se l'administre lui-même. Et donc il y a ça dans la loi, dans le projet de loi français, mais s'il n'est pas en mesure de se l'administrer, eh bien là, on a une forme de ce qu'on appelle au Québec d'aide à mourir, ce que les Belges appellent plus franchement l'euthanasie. Ouais. Et donc, c'est une espèce de modèle hybride qui regroupe les deux. Et donc, effectivement, en France, il va y avoir une assez forte opposition. Et l'opposition vient principalement des milieux de la santé, vient des professionnels de la santé, et encore plus, je vous dirais, des gens qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs, parce que la France a une caractéristique un peu spéciale en Europe. Elle a une loi qui touche et concerne
la loi Leonetti,
les soins palliatifs, la fameuse loi Leonetti, qui est une loi qui va très loin, je vous dirais, dans le soin palliatif, parce que d'abord elle garantit à chacun le droit de pouvoir abréger ses souffrances, en fait soigner, calmer ses souffrances, mais ça peut aller jusqu'à l'administration d'un sédatif qui vous met dans un coma profond, coma qui pourrait éventuellement aller jusqu'à la mort. Et donc quelque part, la possibilité de d'amener le patient à la mort existe déjà dans la loi française, mais il est là non pas parce que le patient le souhaite, il est là pour abréger ses souffrances, tout simplement, pour calmer les souffrances. C'est-à-dire, en calmant les souffrances, on peut éventuellement tuer le patient, mais il n'a jamais la volonté d'abord et avant tout de faire disparaître le patient. Donc le débat va être très très fort parce que à cause de ça, parce que depuis 10 ans, 15 ans que cette loi existe, les soins palliatifs n'ont pas été suffisamment développés en France. On dit que la moitié des Français qui sont dans cette situation-là y ont accès. Et Emmanuel Macron avait promis de ne pas faire de loi sur la fin de vie, sur l'aide à mourir, avant de faire une grande loi sur les soins palliatifs en France qui les élargirait et d'investir massivement dans un programme que ça, ce qu'il n'a pas fait. Il a annoncé quelques petits montants là qui sont assez minimes, mais donc il n'a pas de ce côté-là respecté sa promesse. Mais donc on s'en va vers un débat qui sera d'ailleurs transpartisan, hein, parce qu'il n'y a pas de
d'opposition,
un parti qui est pour, un parti qui est contre. On est vraiment dans un débat transpartisan. Ceci dit, on peut soupçonner Emmanuel Macron, parce que le projet de loi est sur la table depuis plus d'un an, et le débat va s'ouvrir, le débat parlementaire va s'ouvrir à la fin mai, juste
avant les européennes.
Avant les européennes. Donc, vous voyez, il y a toute une question, il y a tout un timing dans tout ça. Et je voudrais que tout aujourd'hui est marqué par ces élections européennes. Tout a une connotation électorale. Peut-être qu'on est paranoïaque, qu'on soupçonne des choses, mais je pense qu'il y a des calculs politiques évidents qui sont faits.
Vous savez, Christian, il y a un budget qui a été fait où les vraies coupures dans les services risquent d'avoir lieu après les prochaines élections.
Oui,
donc tout est électoral. Merci.
Oui, nous allons 10 milliards, 20 milliards de coupures, mais après les européennes, évidemment.
Christian Rioux, voilà. Correspondant français, correspondant du Devoir à Paris. Merci beaucoup, Christian, toujours d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée.
Merci infiniment.
Merci
à bientôt. Au revoir.
Nos deuxièmes invités, c'est Guillaume Rousseau et Philippe Léger. Avec vous, on va faire le tour de l'actualité, une actualité assez chargée avec le début du budget. Mais avant de commencer sur le sujet, je voulais vous interroger sur quelque chose qui vient de tomber, parce que je suis un fou qui écoute les commissions parlementaires et les questions au gouvernement dans le cadre de notre travail. François Legault, dans le cadre d'une réponse à Paul Saint-Pierre Plamondon, vient d'annoncer qu'il va demander demain, notre entrevue est enregistrée le jeudi, demain, lors de sa rencontre avec Justin Trudeau, le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Guillaume, si tu veux commencer?
Ben, en fait, c'est quand même assez important comme annonce, dans le sens que oui, il y avait eu des déclarations dans ce sens-là de M. Legault, notamment au moment de l'élection, mais on avait l'impression que ça avait été tombé dans l'oubli ou que c'était pas une priorité. Et là, il ramène ça de manière formelle dans une rencontre avec le premier ministre fédéral. Donc forcément, ça va prioriser cet enjeu-là et ça va faire en sorte que la réponse de M. Trudeau va être attendue. Si elle est négative, ensuite, c'est la réponse du gouvernement Legault à cette réponse négative, le cas échéant qui sera entendu. Donc, c'est majeur.
Oui, Philippe, sur le sujet, qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, ben, je retiens l'expression de Guillaume de manière formelle, parce que François Legault, depuis quelques années, allusion à sa volonté d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, mais il n'avait jamais, dans une lettre ou dans une déclaration claire, nette et précise, envoyée au premier ministre Justin Trudeau, sa volonté d'avoir tous les pouvoirs en immigration. Moi, j'ai écrit dans une chronique du Journal de Montréal que depuis 2022, François Legault fait preuve d'un fatalisme constitutionnel. Guillaume pourra nous aider encore plus pour nous décrire ce fatalisme constitutionnel-là, mais depuis l'élection de 2022, je pense que et dans le budget, on va en reparler tantôt, il y a une autre preuve de ça, mais je pense que l'objectif pour ce deuxième mandat de François Legault, de son gouvernement, portait du moins beaucoup moins sur ces questions-là constitutionnelles de pouvoir, de compétences à l'intérieur de la Fédération canadienne, et se voulait beaucoup plus technique sur des questions comme l'éducation et la santé. Et là, c'est la première fois que François Legault, depuis l'élection de 2022, fait un premier pas sur ce terrain-là d'aller chercher des nouveaux pouvoirs d'immigration.
Bah, allons-y déjà sur le budget. Tu parlais du budget. On voit un budget avec 11 milliards de déficit. C'est un record. Mais quand on voit certains spins politiques de la part des conseillers de François Legault, on dit que c'est pas vraiment un record quand on prend la croissance de l'État, la croissance des différents paiements. Mais c'est quand même 11 milliards. C'est énorme. Que penser un peu de ce budget, des différentes réactions, mais surtout du fait que le plus dur, la vraie austérité, façon de parler, quand on analyse ce budget, elle est reportée pour après l'élection, donc c'est aussi un budget extrêmement politique. Guillaume, si tu veux commencer sur le sujet.
Ouais, ben sur l'ampleur du déficit, c'est vrai qu'il est gros. Faut jamais oublier qu'un déficit, c'est des coupures de services ou des hausses de taxes différées dans le temps. Donc, c'est quand même pas banal. En même temps, je trouve, moi, le meilleur argument que je trouve pour un peu relativiser le déficit, c'est pas tant, bon, par rapport au PIB, oui, bon, si on fait des comparaisons historiques pour tenir compte du PIB, là, mais ce qui m'apparaît le plus important de ne pas oublier, c'est le versement au fonds des générations et la provision, ce qui nous ramène à un déficit de 7 milliards et quelques. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça relativise, mais ça banalise pas non plus parce que ça reste important comme déficit. Mmh. Mais sinon, effectivement, là, ça va être de voir dans les prochaines années s'il y aura un meilleur contrôle des dépenses. Ça, je pense qu'il faut pas le perdre de vue. Mais en même temps, comme ce déficit-là est beaucoup associé, je pense que dans l'esprit de tout le monde, vu la séquence des derniers mois, aux négociations dans le secteur public où l'opinion publique et les partis d'opposition étaient favorables à ce qu'on en donne plus aux employés du secteur de la santé et de l'éducation, ben je pense que le prix politique à payer sera peut-être pas si grand que ça, même s'il faut quand même surveiller le Parti conservateur qui est le seul un peu plus à droite, donc en théorie susceptible d'en profiter, qui a pas des si bons sondages nationaux, mais qui a des bons sondages dans le coin de Québec, alors c'est à surveiller.
Mais après le Parti conservateur, quand on voit Philippe un peu, ils auraient pu en profiter, mais ils ont préféré parler de bouteilles de vin et de Pascal Bérubé, c'est là aussi le problème. Mais c'est que il y a un aspect politique qui est assez important, mais est-ce que les partis d'opposition, tu penses, quand on voit leur discours, pourraient profiter de ce déficit ou la question est tout autre?
Ouais, ben avant de répondre directement à tes questions, moi, sur le budget, c'est sûr que le chiffre de 11 milliards donne une sueur dans le dos, mais ouais. je serais pas le premier à déchirer ma chemise. Parce que comme Guillaume le dit, la provision de 1,5 milliard, le versement au fonds de génération de quelques milliards, les retombées d'Hydro-Québec qui sont beaucoup moins élevées, ouais. Je pense que ça relativise un peu ce déficit-là qui me semble, oui, il y a une partie structurelle, mais il y a une partie aussi très, très conjoncturelle. Et quand on compare ce budget-là aux autres provinces, à l'Ontario, à la Colombie-Britannique, et qu'on met ces variables-là dans l'équation, on n'est pas très, très loin de ce qui se passe ailleurs.
L'Alberta avait un budget bénéficiaire, mais seulement de 500 000 $. Donc, on a l'Alberta, malgré le pétrole et tout ce genre de choses.
Oui, malgré les revenus pétroliers. En novembre dernier, on parlait en Alberta d'un surplus de 575 millions, si je ne me trompe pas. Ouais. Et maintenant, on est à l'équilibre budgétaire du côté de l'Alberta. Donc, on suit tous un peu la même tendance. Ceci étant dit, sur ce budget-là, ça me semble être un budget d'abord politique et ensuite économique. Pourquoi c'est un budget d'abord politique? Quand on regarde la stratégie caquiste qui est à l'œuvre, d'abord, je pense qu'à la CAQ, on veut faire comprendre le message à tous les groupes de pression, à tous les lobbies et même aux citoyens qu'on n'en a plus d'argent. Que les demandes X, Y ou Z qui venaient d'un peu partout, ben ça va être un peu plus difficile d'y répondre. Et quand on regarde la séquence aussi, il y a quelque chose de politique, hein, parce que en faisant en sorte de repousser d'un an le plan pour un retour à l'équilibre budgétaire selon la loi sur l'équilibre budgétaire, essentiellement, on se transporte en 2025 et c'est à ce moment-là, et là, les coupures dans ce genre de plan-là ne viennent jamais directement dans les premières années. Donc, ça sera après 2026, donc après l'élection. Et la CAQ fait le pari suivant, en donnant des meilleurs salaires aux employés du secteur public, aux professeurs et au personnel de la santé, ben ça permettra peut-être de stabiliser, d'améliorer autant soit peu nos services publics. Et il fait aussi le pari suivant que depuis 6 mois, j'ai l'impression que la Coalition Mère Québec a annoncé tout ce qu'elle pouvait annoncer de ses reculs, elle a annoncé tout ce qu'elle pouvait annoncer de ses emmerdes, toutes les mauvaises annonces. Ouais. Donc, on fait le pari que ça permettra en 2025-2026 de repartir sur des nouvelles bases. Je terminerai rapidement là-dessus. Ça me semble par contre être la fin d'une certaine façon à la Coalition Mère Québec de pratiquer la politique. Depuis 2018, le gouvernement Legault avait l'habitude, pour plaire à certains électorats qui étaient leur électorat, par exemple des baisses d'impôts, par exemple un troisième lien à Québec, par exemple des maisons des aînés, des annonces qui sont très, très flim-flang, qui sont très, très bling-bling, mais qu'aujourd'hui, avec ce budget-là, ça marque la fin de cette démarche-là, que si l'adage « gouverner, c'est choisir » fonctionne, mais pour la première fois, le gouvernement Legault devra gouverner, donc devra aussi faire des choix. Ce budget-là marque, je pense, la fin d'une certaine ère à la coalition.
Qu'est-ce que tu penses, Guillaume, de ce constat?
Ben, effectivement, je le partage et j'ajouterais la chose suivante, c'est que dans ce choix, ces choix qui sont faits par la CAQ, je pense que ce qui a été priorisé, c'est les aînés. parce que malgré le budget difficile sur le plan de la santé et des finances publiques, vous aurez remarqué une annonce importante pour les retraités invalides. Oui. Donc, qui coûte quand même assez cher. Bon, il y a les investissements en santé, notamment en services à domicile. Donc, vraiment, je pense que les électeurs plus aînés ont été autant que possible épargnés. Et si on regarde le détail des sondages, ben les gens plus âgés, ça demeure une partie de l'électorat qui est relativement fidèle à la CAQ. Les votes à la CAQ, les intentions de vote ont été perdues plus vers la frange des 40-50 ans, qui va un petit peu vers les conservateurs, bon, qui s'éparpillent un petit peu. Mais les plus aînés sont dans une certaine mesure restés fidèles à la CAQ et ce sont des gens qui votent. Donc, moi, je pense qu'il y a une stratégie. C'est pas vraiment un budget très électoraliste, mais dans la mesure où il est, c'est peut-être sur cet élément-là. Donc, vraiment, je pense qu'on souhaite faire le choix de prioriser les aînés. Peut-être avec l'arrière-pensée qu'électoralement, ça peut être payant, ne serait-ce que pour sauver les meubles pour la CAQ en 2022.
Pour reprendre un peu les propos, le leitmotiv d'un de vos collègues au Journal de Montréal, Mario Dumont, un peu, est-ce que c'est le moment aussi pour la CAQ de vraiment devenir de redevenir ce gouvernement qu'il aurait dû être dès le début, qui doit changer l'État, qui doit le rationaliser, quand on voit les coupures qui vont devoir être faites, quand on voit la fin des annonces bing-bing, peut-être que le seul moyen peut-être de donner un peu du lait, ça va être de trouver des annonces à coût nul, à coût fixe, sur certains à coût zéro pour l'État, pour un peu améliorer le quotidien des citoyens, trouver ces annonces qui font plus gouvernement de comptables, tels que sont la plupart des membres des ministres importants de la CAQ, qu'au gouvernement un peu plus politique et vraiment aller chercher une volonté de rationaliser, d'optimiser l'État. Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est difficile à répondre, hein. Ça c'est tendu, mais ça me semble assez évident que la faction adéquiste qui a été avalée par la coalition Venir Québec a été marginalisée au sein du gouvernement Legault. Quelqu'un comme Yuri Chassin qui représentait assez bien cette faction adéquiste à la CAQ. Il n'est pas ministre, il n'a pas de responsabilité énorme dans ce gouvernement-là. Est-ce que Éric Gérard fait partie? Peut-être, mais bon, ça reste assez marginal au sein de la coalition Avenir Québec. Est-ce que la CAQ va revenir à son jeu de base sur l'efficacité de l'État, sur de bons gestionnaires, sur faire en sorte de dégraisser un peu l'État? Peut-être, en théorie, en parole, mais dans les faits, ce serait extrêmement difficile pour un gouvernement qui se veut le gouvernement qui va améliorer les services publics en éducation et en santé, de commencer un tel virage. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans le spin politique que dans le réel sur ce dossier-là.
Qu'est-ce que tu penses, Guillaume, au niveau de... Est-ce que ça serait du spin ou est-ce qu'il va falloir attendre de voir? On voit Éric Girard qui, dans son discours, a expliqué qu'il va vous lancer un peu un contrôle de toutes les dépenses. Il veut passer au peigne fin les dépenses de l'État pour qu'un ménage soit fait dans les dépenses tant budgétaires, qui totalisent 136 milliards, quand même c'est beaucoup, et les dépenses fiscales de 74 milliards. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on va être dans le spin ou est-ce que c'est vraiment en prévision du prochain budget de 2025 que tout le monde annonce comme étant vraiment bien plus noir que celui-ci?
Moi, je pense que c'est une bonne pratique là, de gestion des finances publiques, de faire ce genre d'exercice-là, mais ça donne rarement des résultats absolument astronomiques. Là, rarement, on fait beaucoup d'économies sans couper dans les services. Donc ça, c'est un peu une illusion. Ça peut se faire un peu. Là, il peut y avoir justement ce qu'ils appellent de l'optimisation, mais ça a ses limites. Donc, entendons-nous à quelques centaines de millions peut-être d'économies, mais pas des milliards. Donc, c'est pas ça qui va ramener le déficit à zéro.
Philippe Léger, Guillaume Rousseau, chroniqueur au Journal de Montréal tous les deux. Et Guillaume, je rappelle aussi que tu es professeur à l'Université de Sherbrooke et tu es le directeur du programme en droit et politique appliquée de l'État. Merci beaucoup à vous deux et vous revenez quand vous le voulez.
Merci.
Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.